j'ai croisé trois regards. Je m'étais levé tôt. Ce sont bien là les premiers regards croisés ce matin-là. Je n'y ai pas attaché d'importance, les ayant à peine effleurés, mal éveillés, un peu timides. Séparément, chaque regard n'avait pas de sens particulier. C'est plus tard, beaucoup plus tard, les additionnant, que j'ai pu comprendre avoir croisé la mort. En fait, c'est l'année suivante que j'ai compris ce que je n'ai pas encore compris. C'est pourquoi ces trois regards étaient restés gravés en moi. Il est rare que je n'aille pas au Tréport chaque année, forme de pèlerinage, recherche de sensations d'enfance. Peu importe, c'est comme ça. Un signe qui commande à mes pas. C'est le matin de mon départ que je les avais croisés. Mon train partait en fin de matinée et je voulais goûter pleinement les derniers instants qu'il me restait à dérouler dans ce petit port de Manche. Lorsque j'avais mis le nez dehors, il y avait peu d'autres nez dans la ruelle. Le jour à peine se levait en ce frais septembre. Une brume fine diluait le contour de mes rencontres. Dans le sous-sol d'une maison, j'ai croisé le premier de ses regards. Là-bas, souvent, les sous-sols sont aménagés et les propriétaires y descendent à la saison afin de louer les étages. Il n'est pas rare de croiser quelques regards enterrés sous le niveau du trottoir, émergeant d'une lucarne timide. C'était une femme, la quarantaine. Je l'ai su après. Nos yeux se sont trouvés le temps de mon passage que je n'ai pas ralenti. Si je peux décrire aussi précisément son visage aujourd'hui, c'est que d'une certaine manière, il a dû, lors, se graver en moi et que souvent, je suis retourné à sa source. Assez joli, un ovale élargi, ni rond ni ovale en fait, mais des cheveux bouclés et longs, rouges, qui en aspire les marges supérieures, le nez très fin portant deux yeux tristes, tristes mais brillants, vifs, en demande, en appel, en partance. Le seul mouvement qu'elle ait consenti à mon passage est celui de ses pupilles. Elle m'avait accompagné du glissement de ses yeux. Pas plus. Au cœur de mes nuits, les mois qui suivirent, quand ce visage revenait, me réveillait, je ne comprenais pas pourquoi. Étais-je donc amoureux? Je n'en savais rien, mais autrement, pourquoi? J'ai eu depuis une réponse, le début d'une réponse. Peut-être pensait-elle que j'étais la dernière personne qu'elle voyait. Ce qui est sûr, aujourd'hui, elle n'est plus là. Elle est morte ce même jour, quelques dizaines de minutes après que je sois passé devant son soupirail. J'ai appris en effet son décès l'année suivante. Je n'avais aucune raison de m'enquérir des informations du Tréport après mon départ, au milieu de mes voyages, de ma vie, dans le midi de la France. Il n'y avait pas de raison non plus que cette nouvelle restée locale me rattrapât. Je l'ai apprise incidemment, alors que le souvenir même de ce regard semblait s'être effacé. Cela faisait plusieurs mois qu'elle n'était revenue, mais elle était toujours en moi, et elle en émergea, brutale, intense et absolue. Elle est toujours en moi et ne me quittera plus. J'aime me balader sur le port de pêche, dans le labeur des hommes, leurs cris et leurs odeurs. C'est un bain qui me régénère. Ma tête file seule, je perds facilement la notion de l'heure, celle des contingences qui habituellement m'assaillent. Ma tête est libre si je ne le suis pas. C'est dans ce tumulte sage, un an après, que je retrouvais sous le soleil discret d'un automne opportun, le second regard. De la même manière, il ne m'avait pas attaché sur le moment. Je l'avais simplement trouvé 10 minutes après l'autre, alors que je descendais vers le port. La lueur du jour était un peu plus marquée, et je croisais un enfant, 13 ans environ. Sa présence si matinale m'avait intrigué. Nous avions échangé un sourire. Il avait l'air confiant et assuré. Je ne l'avais pas relié à la femme. À la faveur de quelques ressemblances, il m'avait depuis et durant quelque temps traversé, fugitif. Je le retrouvai l'année suivante sur le port. Une mouette venait de lancer un cri strident et dur à mes oreilles. Quelques ripailles échappées. Elle était proche de moi en un vol de chasse accéléré. Son cri était empli de mouvements, laissant après son passage comme une fissure dans ma tête. Tout de suite, l'image des oiseaux d'Hitchcock s'était imposée à moi et un frémissement m'avait parcouru le dos. Dans le brouhaha du port, bien vite réchauffé, je me pris à en rire. C'est alors que j'ai croisé le regard de cet enfant pour la seconde fois, un an après. Je ne peux dire que je l'ai reconnu. Ce qui est sûr, c'est que de suite, il m'a attaché. Lui, m'avait-il reconnu? Avait-il des raisons de me reconnaître? Je le pense aujourd'hui. Ce que je sais, avec certitude, c'est bien lui que j'avais croisé l'année précédente. C'était son sourire qui m'avait atteint. Cette certitude, ce n'est pas lui qui me l'a donnée, car je ne l'ai jamais revu. Le lendemain, il disparaissait, et on devait retrouver son corps la semaine suivante, rabattu par les vagues, à la pointe du môle. À cette heure, il me regardait avec une étrange fixité, un peu comme s'il essayait de me lire. C'est son insistance qui m'appliqua à réfléchir. Nous connaissions-nous? Quand nous étions-nous rencontrés? Je ne sais pas le temps qu'a duré notre pause, mais seulement que je me suis avancé vers lui. Il s'est levé, nous nous sommes souris et salués. Dans ma tête, le cheminement continuait. J'étais sûr, après ce sourire-là, que je l'avais déjà rencontré. Nous nous promenâmes le long des quais. J'avais au fond de moi une impression diffuse de bonheur. Lui, sans doute aussi. Il échappait souvent de petits rires satisfaits. Nous parlions peu, seulement sur ce qui nous entourait. Nous parlions de l'immédiat, uniquement de l'immédiat. Je ne lui demandais pas qui il était. Il ne me le demanda pas non plus. L'important était cet instant-là, et cet instant durait. L'avait-il voulu? Nous marchions maintenant dans cette ruelle où j'avais croisé le regard de la femme. À l'approche du soupirail, un sourd battement commença à envahir ma poitrine. Une émotion puissante essayait de se frayer un passage. Je n'ai pas compris de suite, mais les objets et les maisons qui m'entouraient vinrent doucement me délivrer leur message, à ramener en moi ce regard oublié, mais si fort. À mon côté, l'enfant devenait différent. Je sentais en lui se développer une angoisse qui parvenait à m'atteindre, malgré le silence absolu que nous nous dispensions. Je le regardais. Au coin de son visage était accroché un voile de malheur que je ne lui connaissais pas. Une petite larme essayait de perler. Alors il se planta droit devant moi, renifla bruyamment et partit en courant, s'arrachant à mon univers en ce moment troublé. Je ne l'ai plus revu, mais je venais d'entrer dans son histoire. Le bonheur léger et tendre que nous venions de connaître, l'étrangeté de son départ et l'émotion qu'il n'avait pu contenir, me laissèrent figé sur le trottoir, à quelques pas du soupirail que nous avions dépassé. J'étais comme paralysé, indécis, ne sachant si je devais suivre mes pas, perdu. L'émotion avait fini d'emplir ma poitrine, qui battait fortement. Dans ma tête, une forme de vide, ou plutôt le contraire. Rien ne pouvait se fixer, mais des images défilaient à une folle allure. D'elles, je ne pouvais rien retenir à cause de leur rythme. Me restait cette impression de vide. Je crois qu'à un moment, j'ai eu envie de pleurer. Il me semble que mes yeux aient commencé de piquer et que des sanglots se formaient dans ma poitrine. Je n'aime pas m'avouer ces moments de faiblesse. Ce dont je me souviens, 3 ans après ces faits, alors qu'enfin aujourd'hui je sais, c'est que lorsque mon corps a accepté de repartir, c'est en arrière qu'il l'a fait et qu'il m'a ramené vers le soupirail. J'ai fermé les yeux, un peu pour effacer le présent et revenir à ce matin d'un an passé. J'ai ramené la brume fine, l'heure froide, et mon esprit qui s'apprêtait à partir. Magie du lieu, magie de ce visage, lorsque je les ai réouverts, il était là, devant moi, comme si je ne l'avais pas quitté, intact, tel qu'il m'était revenu dans les nuits qui suivirent. Je revoyais son visage mieux que je ne l'avais jamais vu, retrouvant des détails que la suite devait me confirmer. Tel, ce tatouage, formé de 3 petites lignes qui prolongent les lignes de son nez et que portent les femmes kabyles. Ainsi de ce bijou, qu'à présent je distinguais nettement, une boucle d'or fin parant l'aile de son nez. Dans mes souvenirs, c'est bien la première fois que je les voyais. Ils m'intriguèrent fortement. Je me rassurais, disant que je venais de les inventer suite aux émotions que je venais de vivre. La suite devait me montrer le contraire. Ils étaient vrais, et je venais de les retrouver au fond de moi. Loin du monde alentour, je me concentrais sur cette lucarne. Fatigué de tous mes pas et de toutes mes pensées, je m'asseyais sur le bord du trottoir d'en face. J'ai dû rester assez longtemps là pour qu'un vieil homme en ennui, intrigué, ne s'approche et s'inquiète de moi. Je le rassurais. Ce brusque retour en humanité me donna l'envie d'en savoir davantage sur la femme, sur ce premier regard. Rassuré sur moi-même et riche de son seul ennui, il devint vite bavard et m'apprit alors sa mort il y a juste 1 an. On n'avait rien su. La mort était suspecte. Rien ne la laissait présager. Jamais elle n'avait précisé quoi que ce soit. Sur son corps, pas de violence, pas de traces et aucun indice. Tout paraissait normal. Seule la mort ne l'était pas. Le médecin avait quand même délivré le permis d'inhumer. Mais les bruits avaient vite couru. Aucun qui se soit trouvé fondé. La petite cité l'avait enterré, simplement, en regret. Près du cercueil, pas de parents. Elle était seule, vraiment seule. Seuls les questionnements avaient empli l'église, pas les fleurs, pas les attachements. On ne savait rien d'elle, que des banalités. On n'en saurait rien d'autre. Vous comprenez, monsieur, c'est une affaire classée. Je quittais trop rapidement à son goût le vieil homme. J'étais marqué. Cette femme, cet enfant, ces 2 regards croisés ce même jour il y a juste 1 an. C'est alors que du fond de ma mémoire remonta le 3e. Celui-là jamais ne m'était revenu. Mais mystère de moi, aujourd'hui, après tous ces événements, il remontait. Ce ne fut d'abord qu'une sensation fugitive, indiscernable, un malaise inexpliqué qui me traversait. Je raccrochais ma tête à d'autres images présentes ou passées pour éloigner ce sentiment bizarre. Rien n'y faisait, de temps à autre il remontait furtif, mais de plus en plus affirmé. Je m'asseyais alors à la terrasse d'un café qui s'autorisait encore quelques chaises ensoleillées. Je commandais une bière brune et lentement la sirotais. Mes pensées, attachées dans les nuages en transit, essayaient de se fixer sur ces moments que j'avais effleurés l'an dernier. Ritournelle. Le film se déroulait avec tous les détails que j'ignorais avoir gardés en moi. Ce premier regard, cette femme, le second, cet enfant et le malaise qui remontait. Bloqué dans cette courte séquence de mon passé, petit à petit je remarquais que le malaise apparaissait après que le visage de l'enfant ait disparu. Je fermais les yeux et m'enfonçais en moi-même. Une image très diluée commençait de m'apparaître. Je sentais comme un visage imprimé dans mon être, un visage que j'avais dû vouloir effacer car je ressentais comme une douleur dès que je l'approchais. Je réglais et prenais la route du calvaire. Un Christ en bronze planté dans le haut d'une falaise, face à la mer, auquel on accède après maints escaliers. Une nouvelle fois, je repassais le film, les yeux aux vagues qui chouchouillaient en bas sur les galets. À ma hauteur, pendue au-dessus du vide, tournoyaient des mouettes poussant de petits cris lancinants. Dans le port, et qui sortait, un cargo jeta son coup de trompe. Le visage surgit d'un seul coup, je le revoyais nettement, c'était celui d'un grand homme bizarre que je croisais juste après avoir reçu le visage de l'enfant. Sa démarche était rapide, saccadée, il était excité, essoufflé. Il n'était pas à sa place dans le calme du tout matin. Je le regardais alors qu'il s'approchait, mais il ne m'avait pas vu. Préoccupé, au dernier moment il m'aperçut. Il était lors à me toucher. Continua son pas sans ralentir. Il s'était tourné et me regardait fixement. Je n'avais pu me détacher de lui. Dans ses yeux, des flammes d'alcool et une haine mal dissimulée qui ne s'adressait pas à moi, mais me glaça. Il buta sur une bordure. Son pas hésita. Il garda l'équilibre et poursuivit, laissant en moi une empreinte que je m'empressais d'effacer, mal effacée. Je venais de rencontrer le troisième regard. Je venais de retrouver le troisième regard. Derrière moi, le Christ était toujours à ses pensées, indifférent. Je repartais. Est-ce que ces trois regards avaient à voir entre eux? Étaient-ils liés? L'homme était-il lié à la mort de cette femme? Les soupçons du vieil homme étaient-ils fondés? La femme ne portait pas de traces. Alors, je me retrouvai vite à la bibliothèque municipale à fouiller dans les journaux de l'année passée. L'affaire avait fait bien un peu de bruit à l'époque. Mort mystérieuse, une femme est retrouvée morte à son domicile. Elle se sentait menacée. Et le choc. Sa photo, mauvaise photo, mais qui ravive bien mon souvenir. Je la reconnais précisément. À la naissance de son nez, trois petites lignes bleutées. À sa narine, une boucle d'or fin. Je ne les avais donc pas rêvées. Les journaux suivants, rien. Que des rumeurs infondées. Plus tard, sur le port, à l'abri de baies vitrées, je mangeais distraitement un plateau de fruits de mer en complicité de Chablis. Je scrutais les passants, je recherchais l'enfant, rien. En moi, les idées commençaient de s'articuler. Ces trois regards étaient en train de construire une trame, celle d'un mystère qui commençait de me happer. Je retournai voir le vieil homme, toujours très disponible. Mais il ne m'apprit rien de plus et ne voyait pas quel pouvait être celui que j'avais rencontré. Je le quittai avec le sentiment qu'il était heureux que quelqu'un s'intéresse de nouveau à cette affaire. Les jours qui suivirent ne m'amenèrent rien, malgré des recherches qui constituaient la totalité de mon emploi du temps. Je m'hasardai même à la police judiciaire où je fus fort courtoisement reçu, mais en indifférence. Cette affaire était classée. Il y avait eu assez de rumeurs. C'était aimable à moi d'être venu, mais l'homme ne correspondait à aucun signalement. Jamais il n'en avait été question. Quant au gamin, si je le retrouvais, il faudrait peut-être que je lui pose des questions. Mon séjour devait se conclure. J'avais déjà retardé quelques rendez-vous. Je m'ennuyais un peu et j'avais meublé ma tête avec des bribes. J'avais construit une amusette. Il était temps de terminer le jeu. Avant de repartir, et malgré la rationalité qui avait fini de me reconquérir, je repassais dans la rue des regards. Le vieil homme n'était pas là, que mes souvenirs. Ça n'y faisait rien, ils étaient drôlement vifs, sacrément présents, ces souvenirs. Je souscrivais un abonnement à Paris-Normandie, le quotidien régional. Pas tellement pour aujourd'hui, mais pour hier. Si je l'avais fait l'an dernier, j'aurais plutôt su ce qui s'était passé. Et qui sait ? C'est du fait de cette décision que j'apprenais à mon domicile le décès de l'enfant. Sa photo en page 2, fait divers, m'indiquait bien que c'était lui. Mort le deuxième regard. Un enfant est repêché au bout du môle du Tréport. Les premiers examens laissent apparaître une mort par noyade. L'identification n'a pu aboutir. Aucune disparition n'a été signalée ces derniers jours. La mort pourrait remonter au 22 septembre, soit, pour ce qui me concerne, le lendemain de notre rencontre. Aussitôt, je téléphonai à la police judiciaire. Mon interlocuteur de l'autre jour me rappellerait. Il n'était pas là. Il ne me rappellera pas. Les jours suivants, malgré une activité très soutenue, je n'arrivais pas à me détacher de l'image de l'enfant. Peut-être ai-je pleuré, mais ne veux pas m'en souvenir. Impossible de travailler. Il était toujours présent à chaque coin de dossier, à chaque coin de client. Les nouvelles locales que m'apportait le journal normand ne répondaient à aucune de mes questions. L'enfant n'était rattaché à personne. Il vivait seul. Il n'avait pas eu la chance de la femme. On s'intéressait peu à lui. Hasard de l'actualité. Au fur et à mesure que les jours avançaient, le désintérêt des médias l'effaçait. Et on n'en parlait plus. J'étais au Tréport. Deux regards partis, restait le troisième. Et le vieil homme qui m'attendait, seul, m'attendait. Il ne savait rien. Je ne savais pas. Mais c'est suffisant lorsque l'on a envie de savoir. C'est le troisième regard qu'il me fallait retrouver. Le seul élément qui pouvait nous rapprocher de la vérité de ces êtres disparus. Être qui ne m'était rien, mais m'avait accroché. Je me promenais bourré de questions dans les rues du Tréport, plus tard dans les alentours. Rien. Plus le temps passait, plus j'avais le sentiment de la folie de ma quête. Je retournais voir le vieil homme, et je recommençais. Il ne s'est rien appris de l'enfant. Peut-être ai-je été son dernier moment de bonheur. Un enfant a bien des parents, pourquoi ne se sont-ils pas inquiétés? Signalés, sont-ils en vie? Un enfant que personne ne connaît, est-ce possible en notre temps? Les mouettes ne parvenaient pas à me distraire de ces questions. Seule, celle qui criait de ce cri qui m'avait apeuré, me touchait et ramenait en moi l'image intacte de l'enfant. Le vieil homme enfin me parla de lui, veuve depuis assez d'années, des enfants assez occupés, mais pas de lui. Il a tout son temps, mais il n'a que son temps, et il le sait compter. Cette voisine, il l'aimait bien, un peu ce mystère, un peu le malheur qu'elle traînait derrière elle, beaucoup des espoirs qu'elle savait en conclure. Ils se parlaient, d'abord du temps, parfois, les jours de brume, elle parlait d'un enfant, celui qu'elle aurait aimé avoir mais n'avait pu concevoir. C'était son immense regret. Elle avait eu un amour, immense amour, qui avait résumé toute sa vie. Lorsqu'elle s'était réveillée, il lui restait des souvenirs, mais pas d'enfant. Dans les unions qu'elle connut plus tard, elle ne voyait pas l'objet d'une naissance. Elle s'était contentée de vivre pour elle. Elle s'enterrait dans le sous-sol de cette maison triste qui ne lui coûtait pas trop cher. Elle y avait assez de place pour faire vivre ses souvenirs, même si elle n'en avait pas encore l'âge. Elle continuait de vivre par habitude. Elle ne vivait que des instants. Jamais elle ne lui en avait dit plus, même s'il en avait perçu davantage. Lui, il la regrettait. Souvent, il attendait ses heures, mais elle n'était plus là. J'ai eu dès lors le sentiment d'un peu la remplacer à travers mes recherches. Tout cela n'avait pas fait avancer les choses, car si on les sentait, on ne les savait pas. Y avait-il un rapport entre elle et cet enfant? Lui l'ignorait. Pourtant, il devait y en avoir un. Pourquoi m'aurait-il amené dans cette rue avant de disparaître? Aurait-il eu cette émotion? Il y avait entre eux un lien. Quant au troisième, enfin, ils étaient tous trois dans la même rue à la même heure, et c'est bien là que je les avais rencontrés à bien peu d'intervalle. Une heure qui n'était pas faite pour traîner un regard en question sur un homme qui passe. Une heure qui n'était pas faite pour un enfant en balade. Une heure qui n'était pas celle de porter la haine et l'alcool en ses yeux. Et je me trouvais là. Et deux ne sont plus là. Reste donc le troisième regard. Mes recherches à son égard étant restées vaines, je voyais mal comment avancer désormais, ne possédant qu'une image légèrement dissoute en mon crâne. Il me fallait déduire. L'aspect de cet homme rappelait le matelot, les mains épaisses et le teint brûlé. Il semble bien qu'il ait pu être de ces hommes-là. Inconnu ici, il aurait été alors marin d'un autre port, en cabotage ou marin de cargo, qui sait. Retour à la bibliothèque et aux journaux. Y sont consignés les mouvements des bateaux. Ce jour, deux tonniers faits qu'en poids étaient là, et deux petits cargos d'Afrique du Sud venant pour le charbon. Comment retrouver avec mes faibles moyens? Exit donc l'Afrique du Sud. Reste Fécamp, qui n'est pas loin. Peu après, j'irai dans les rues de cet autre port, dévolu aux plus grandes distances aux pêches de morue, et chercher les deux bateaux présents au tréport l'an dernier. Le ville de Fécamp et le mari Bonvent. Je tournais en rond, avec, au fond de moi, des souvenirs incertains. Les bistrots du port, les jetées et le cœur de la ville, mais toujours rien. Une nuit viendrait trier ma tête et reposer mon corps un peu las de tous ces voyages. Le réveil est lucide et me permet de faire les points sur cette aventure farfelue. Mes conclusions tombent assez vite au travers des vapeurs du café brûlant. J'ai commencé, il faut aller au bout. Il me reste 4 jours avant que d'être déraisonnable. Il faut les mettre à profit et ramener le fil à moi. Parti sur l'hypothèse de ces deux navires, il faut aller à sa fin et savoir qui était dessus ces jours-là. Encore les journaux, encore les archives. Et la réponse est là. Une quinzaine de noms, pas plus. Alors le plus simple sera sûrement de traîner et demander dans les entours du port. Il est midi. J'ai bien travaillé. Un repas en gargote, quelques mets et quelques questions. Lors, je connais les bars où je pourrais peut-être trouver... Alors traîne les bars. On se lit facilement. Et vite viennent les bateaux Ville de Fécamp et Marie Bonvent. Le premier est parti, et le second est là, au bout de la jetée, là-bas. Touriste attentif, je suis au-dessus du bateau qui se dandine. Pas de marin. Attendre. J'ai une bonne occupation. Regarder la mer. Une heure, deux... Enfin, des hommes viennent qui montent sur le pont et préparent la sortie, réparent les filets, révisent les machines. Mais le troisième regard n'est pas là. Je n'y croyais pas vraiment, mais enfin. Et je retourne en ville et je retourne en bar, je cause de nouveau à en inquiéter les marins. Ils n'aiment guère les questions trop précises venant d'un inconnu. Et le silence, bientôt, se fait autour de moi. La nouvelle est passée dans les bars de la ville. C'est foutu, Ils ont dû me prendre pour quelque inspecteur. Au moins aurais-je joué ma carte. Un peu découragé, je songe à repartir. Il est 2 heures du matin et la rue qui m'accueille à la sortie du dernier rad a des airs bien sinistres. Mon pas est hésitant car il m'a fallu boire. Vite, l'hôtel et dormir. Pas de taxi. Où se trouve donc mon palace ? Il me faut avancer, traîner ma carcasse hésitante au-dessus des pavés. Voilà 10 minutes que je marche et dans mon dos je sens une présence. On me suit. Je me retourne. Rien. Mais l'impression ne s'efface pas. Elle a le don de me ramener un peu d'esprit. Je ne suis plus tranquille à présent. Tous ces silences autour de moi. Maintenant, celui de la nuit, celui qui est derrière moi et m'accompagne. Je suis partagé entre 2 sentiments. Et mon brouillard éthylique empêche de discerner lequel importe. Je suis serré d'une trouille noire qui augmente mes pulsations et me presserait à essayer de fuir. Mais j'ai envie de savoir si la réponse était derrière moi. M'apparaît le visage de l'enfant disparu. Alors je me retourne et marche droit vers ce qui n'est qu'une présence. Mes pas sont maintenant assurés, je veux savoir. Et tant pis pour les risques qu'estompe mon état. Je n'ai pas la peine de chercher, il est là devant moi. Le troisième regard, c'est lui, dressé sous la lumière tranquille d'une lanterne de ville. Il attend. Je m'avance vers lui. Si c'est le même regard, l'expression n'est pas la même. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas d'alcool. Il y a seulement une attente, un pourquoi. Je me campe face à lui, mal assuré mais confiant. Nous nous dévisageons. C'est la surprise qui, assez vite, l'inonde. J'ai bien le sentiment qu'il se souvient de moi. Il plisse les yeux, sa tête cherche. Il n'a pas encore défini qui je suis, mais il sait m'avoir vu. Viens prendre un verre. Peut-être avons-nous à discuter. Il vient de rompre le silence et je le suis sans autrement le questionner. Dans le bar qui se vide, nous nous installons sous les yeux interrogateurs des derniers clients. Une table excentrée, au calme. Il ne me posera pas les questions qu'il avait préparées dans le cours du chemin. Il a dû trouver où il m'avait rencontré. Alors que je n'ai pas encore ouvert la bouche, il me raconte son histoire. Nous nous sommes rencontrés sur une plage. Je naviguais alors sur les ferries entre la France et l'Angleterre. Je l'ai tout de suite aimée. Nous avons parlé. Elle était emplie d'une immense tristesse. Elle venait de perdre un amour. Elle ne m'a jamais dit comment. De rencontre en rencontre, nous nous sommes approchés. Mais je n'arrivais pas à la faire rire. Elle se disait bien avec moi. C'était tout. Elle venait à chacun de nos rendez-vous, mais repartait toujours en tristesse. Je ne savais que faire. Je lui portais des fleurs, des cadeaux simples. Elle souriait, les prenait et s'enfuyait en mélancolie. Je lui parlais beaucoup. Elle me répondait par politesse pour me faire plaisir. Mais jamais elle ne me parlait d'elle. Je n'osais plus la questionner. Au début, j'essayais et chaque fois, elle s'enfermait davantage. Je lui racontais la mer, les ports, toute ma vie. C'est la première fois, je vous jure, que je parlais ainsi contre mon gré. Les autres filles, je leur en mettais plein la vue avec mes histoires et jamais je ne tarissais que dans le lit et encore. Avec elle, je parlais pour meubler, pour que dure le temps. Seulement pour que dure le temps, pas pour me vanter. Nous nous sommes aimés. Chaque fois, c'était une épreuve. Je l'aimais, je vous jure que je l'aimais. Je ne la sentais pas vibrer, comme si sa tête était détachée de son corps. Je me suis lassé de ce corps qui ne me parlait pas. Mais nous avons continué de nous rencontrer, souvent, aussi souvent qu'on le pouvait. J'ai compris un jour pourtant qu'il y en avait un autre. Elle était différente. Elle avait en elle de la joie, une joie que jamais je n'avais su lui procurer. Elle me recevait toujours en gentillesse, mais elle était deux fois ailleurs. Plus allait le temps et plus il m'insupportait de la savoir heureuse d'un autre. J'ai commencé de perdre la tête. J'ai repris des habitudes que j'avais abandonnées. J'ai bu, beaucoup bu, et mon caractère s'en ressentait. Même avec elle, elle ne disait rien. Elle sentait mon malheur et son impuissance à agir sur lui. Elle ne savait qu'attendre et me témoignait une immense tendresse. Mais ça n'y faisait plus rien. Je sentais cet autre et le bonheur qu'il lui procurait. Je ne pouvais plus le supporter. Je l'aimais trop. J'ai préféré partir. Elle ne m'a pas retenu. Il s'est passé du temps avant que je ne reprenne le goût de rire. J'ai voyagé au loin, fait des rencontres, mais elle ne m'a jamais quitté. 6 mois après, j'ai eu envie de la revoir. Une amie m'avait quitté et j'étais un peu au fond. J'ai trouvé un boulot qui me rapprocherait sur la Marie Bonvent. Je ne pouvais pas aller directement vers elle. Je voulais laisser un peu la chance à la chance, quoi. Je savais qu'un jour le bateau attacherait au tréport. Je me mettais entre les mains du destin en l'aidant juste un peu. Et l'escale est venue. On a eu 3 jours de relâche pour avarie. Je me suis rapproché, je l'ai suivi, sans volonté autre que la regarder. Mon impuissance à la rendre heureuse m'empêchait d'en faire davantage. Je voulais me nourrir du seul bonheur de la regarder. C'est alors que je les ai vues. Elle descendit les marches qui mènent vers le port. Elle s'installa, semblait attendre en regardant la mer. En fait, la contournant, j'ai su qu'elle ne regardait pas la mer, mais un jeune garçon qui était accoudé à sa fenêtre, qui lui aussi la regardait. Ils passèrent un temps fou à se regarder, par-dessus une invisible frontière. Elle repartit vers sa maison, un sourire en empreinte, et puis s'y enterra. Je ne comprends pas bien la rage qui s'est emparée de moi. Soudain, je comprenais que l'autre n'était pas un homme, mais un enfant, que cet enfant avait su par ses regards, par ses silences, lui procurer ce que jamais je n'avais su lui apporter. J'étais fou, fou jaloux d'un enfant. On ne contrôle pas la jalousie, c'est trop violent. Elle s'est emparée de moi et m'a jeté au cœur des idées insensées. J'ai voulu m'en défendre, j'ai voulu la défendre de moi et je me suis enfui. Vers les bars, toute la nuit, j'ai erré, j'ai bu, je me suis enfoui sous des tonnes d'alcool. Je me suis effondré d'une masse au bord des quais et j'ai dormi. C'est le froid qui m'a réveillé. J'étais un peu calmé. Je suis monté vers elle. Là, je vous ai croisé. Votre regard, je m'en souviens, c'est le premier que je rencontrais après cette folle nuit. Vous étiez le premier qui me voyait après cette immense folie de jalousie. Et vous étiez curieux. Je vous ai regardé comme si vous étiez le premier homme que je rencontrais. Je me suis imprégné de votre visage. Je me suis raccroché à votre image. J'allais vers l'inconnu, et vous étiez mon dernier port. Quand je suis arrivé chez elle, elle était morte, allongée simplement sur le bord de son canapé. Elle avait sur la bouche un sourire que je ne lui connaissais pas. Elle était en bonheur. Je me suis trouvé tout petit enfant, sans moyens, apaisé. Je n'étais pas triste. Je crois que c'est de voir ce sourire qui me mettait en paix. Alors je l'ai quitté. J'étais de trop. Je n'étais pas de ce bonheur. Personne ne m'avait vu. Il suffisait de m'effacer. J'ai lu les journaux les jours suivants, le mystère de sa mort. Je n'ai rien compris. Je sais seulement que je l'ai toujours au fond de moi. Je n'avais pas dit un seul mot. Le troisième regard n'était pas celui qui lèverait le mystère. Car je croyais cet homme. D'instinct, je le croyais. Et il n'avait pas la réponse. Moi non plus, je ne l'aurais pas. C'était ma dernière chance et Il n'avait fait qu'ajouter à mes questionnements. Nous nous quittâmes assez vite, nous promettant de nous revoir au cas où quelque chose d'elle réapparaîtrait. Il retournait une vie qu'il trouvait sombre, mais qu'un rayon de soleil du fond de sa mémoire suffisait à éclairer. Je retournais pour moi vers une vie douce, mais chargée d'une insatisfaction profonde. J'avais peine à supporter de n'en savoir davantage. Les quelques recherches que je menais concernant l'enfant furent sans succès. Officiellement, on l'avait dit fils de misère de quelques SDF en galère. Oubliez-la. On sondait bien encore quelques fichiers, mais à cet âge, on change vite. Personne ne le connaissait. La fenêtre de la maison à laquelle il se trouvait lorsque la femme le regardait existait bien. Sur les indications du matelot, je l'avais retrouvé. Mais la maison était inhabitée. Je me hasardais à la visiter. Un squat. Du monde devait y passer, mais de l'enfant aucune trace. Il me restait à repartir. Le vieil homme reçut mon histoire avec déception. Il aurait aimé en savoir davantage. Nous étions trois en désespoir. Ma vie reprit son cours, ténuant les effets de ces événements. Souvent, le visage de l'enfant et celui de la femme venaient me retrouver. Parfois, je recevais un courrier de Fécamp, un courrier du Tréport, et je leur répondais. Nous avions abdiqué. Nous avions convenu que n'étaient pas tristes ces fins qui avaient réuni deux êtres se sentant si proches. Nous avions accepté leur destin. À leurs images, chacun de nous vivait le sien. Deux années passèrent. Au milieu, un séjour d'automne au Tréport, une glissade à Fécamp et quelques tendresses échangées entre amis. Nous ne soulevions même plus la pierre qui recouvrait leurs âmes disparues. Notre rencontre suffisait à leur mémoire. C'est plus tard, à la mort du vieil homme, que nous comprîmes ce que lui depuis longtemps savait, et qu'il nous avait tués, jaloux de sa mémoire. Il avait fait le nécessaire. Le matelot et moi fûmes prévenus en temps pour être à son enterrement. Nous étions ses seuls amis. Ses enfants, toujours pressés, étaient là. Ils nous remirent un pli de sa part. Il était adressé à nos deux noms. Le vieil homme connaissait bien la femme. Il avait surtout connu son père en Algérie. Celui-ci était auxiliaire de l'armée française alors qu'il était lieutenant. Quand le bateau quitta le port d'Alger, que tout était écrit et que tout restait à écrire, il avait dû laisser sur le quai celui qui était devenu un ami. Une amitié se fond dans la terre, était formelle, la trahison obligée. Ne resterait plus de lui qu'une flaque de sang. Resterait aussi dans le cœur de cet homme la trace d'un ami. Et puis, la vie. Il savait qu'il avait une fille, et quand il le put, s'enquit d'elle. Elle vivait en Algérie. Ils s'écrivirent, et bien vite l'amitié ancienne retrouva sa trace. Il préférait s'écrire des choses heureuses, et mentait sur le reste. Il se faisait du bien. Naturellement, c'est vers lui qu'elle se tourna quand les malheurs l'accablèrent. Il lui trouva ce petit sous-sol, elle s'y accommoda. Ses malheurs, il les savait, mais qu'importe, il lui appartenait. Elle aimait un homme, elle aimait l'Algérie, elle avait dû quitter les deux, parce que la vie, justement la vie. Le vieil homme n'avait pas voulu l'accabler de questions, il n'était là que pour l'aider à retrouver le bonheur. Il continuait de correspondre. Elle ne lui en avait pas trop dit, respectant sa pudeur. Il avait semblé que l'homme était parti, que ce départ était lié à l'histoire de son pays. Elle avait rattrapé leur vie. Les faits dans lesquels ils n'étaient rien les avaient séparés. La seule chose qu'il savait, en fait, est que jamais son affection ne suffirait à la remettre en vie. Néanmoins, il avait espéré quand il vit le matelot s'attarder chez elle. Ses espoirs n'allaient qu'au lendemain. Quand il la rencontrait, il savait que l'homme n'avait pas pu déchirer son voile de chagrin. Chaque fois qu'il revenait, il espérait. Un jour n'espéra plus. Il se reprit encore à croire par un très beau matin quand il entendit des chants qui sortaient du soupirail. Il ne reconnut pas tout de suite la voix. Il chercha longtemps ce qui lui procurait ce bonheur nouveau. Il comprit le jour où il vit l'enfant. Dans le même temps qu'il le vit, il sut que c'était la fin. Ce bonheur était trop brutal et elle s'y jetait trop. L'enfant était de passage. Il suivait un groupe de jeunes en goguette. Il n'avait pas de parents et avait fui son centre d'accueil, elle lui apprit plus tard. Il se faisait accepter au fur et à mesure de ses errances. Un jour, il s'était attardé devant le soupirail. Leur amour était total, absolu, impossible. Amour de mère, amour de femme. En lui, elle retrouvait tout. Son amour, son pays et l'enfant qu'elle n'avait pas eu. Tout en elle se mélangeait. Elle n'avait plus la force de trier. Elle n'avait plus que celle de tout accepter. Lui était un animal sauvage, un cœur immense, mais qui ne savait s'attacher. Quand il voulut partir, elle sut rester discrète, ne chercha pas à le retenir. Elle lui demanda seulement de venir un matin afin de lui tenir la main quand elle s'endormirait. Il était venu. Il avait tenu sa main. Leurs deux regards ne s'étaient pas quittés. À l'heure qu'elle partait, lui, l'animal sauvage, était apprivoisé. Le vieil homme avait lu la dernière lettre qu'elle lui avait laissée et accepté de vivre, à seule fin qu'elle ne s'éteigne. Il attendait un signe. Quelqu'un qui passerait, qui pourrait s'attacher, et puis se souvenir. Il attendait un signe, quelqu'un qui passerait, qui pourrait s'attacher, et puis se souvenir. Qui pourrait s'attacher, et puis se souvenir.